BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est vraiment un des pros de l'aérien. Il est aujourd'hui président de Tikeo As Capital. Bonsoir Marwan Laoud.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Surtout vous sortez du Paris Air Forum, qui est une grande conférence où étaient tous les grands du secteur, l'aéronautique, du spatial, de la défense se réunissent. Vous avez planché sur une question, heureusement, sur l'industrie aérospatiale et de défense. Est-elle finalement vertueuse? Grande question en ce moment. On y reviendra, mais permettez-moi d'abord deux, trois petites questions d'actualité brûlante. Trafic aérien, ça a repris.
Ça n'en finit pas de reprendre. Les chiffres de la semaine, on suit les chiffres semaine après semaine. Les chiffres de la semaine, on est au plus haut depuis la crise. On est à 15% en dessous du niveau de la même semaine en 2019. Et pourtant, on a la Chine à moins 70%. Donc la Chine, qui normalement est un moteur du trafic, c'est 25% du trafic à peu près, mais la Chine est arrêtée du fait du confinement et de la stratégie zéro virus de Xi Jinping. Je pense surtout du congrès du Parti communiste chinois en octobre.
Oui. Mais comment, où est-ce que ça repart? Parce qu'on nous dit, la Chine, ça repart pas, l'international, ça repart pas, le business, ça repart pas. Puis en même temps, vous nous dites, on est en train de taper les plus hauts, quoi. Donc.
Ça repart en Amérique du Nord, ouais. Ça repart en Europe. Le business repart, contrairement à une perception, à une idée reçue. Non, c'est en réalité, on retrouve une situation qu'on avait avant le Covid, qui est des trous d'air régionaux. C'est pas la première fois qu'en Chine, le trafic s'arrête. En 2003, déjà, au moment du SARS, ça s'était arrêté.
Oui. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais on va rappeler, vous êtes un des grands dirigeants d'Airbus. Pourquoi le prix des billets d'avion explose?
Le prix des billets explose parce que...
C'est une manière de rattraper...
La demande est forte. Demande est forte, puisqu'il y a des gens qui reprennent l'avion. Et vous avez un effet d'offre et de demande, et vous avez en même temps un effet d'équilibre économique des compagnies aériennes. Mmh. Donc le prix, finalement, c'est un point d'équilibre entre un acheteur et un vendeur. Ça se vend, donc les prix montent. Et tant que les prix montent et qu'il y a toujours des acheteurs, les prix monteront.
D'accord, donc ça veut dire qu'il faut arrêter de prendre l'avion. Peut-être qu'on fera baisser le prix, non ?
Il y aura un point d'équilibre, comme toujours. Le prix, c'est ça.
Oui, d'accord, on devient une vieille leçon d'économie. Vous sortez de ce Paris Forum, quelle était l'ambiance d'abord ? Est-ce que justement, c'est une forme d'euphorie qui reprend ou pas, où il y a quand même de grosses interrogations sur l'avion de demain. Vous-même, je le disais, vous y avez participé. Parce que c'est la transformation écologique, elle touche de plein fouet le secteur aérien et spatial.
J'étais très content de ma journée. J'ai passé la journée au Paris Air Forum. Ça m'a rappelé le premier Paris Air Forum d'après-crise. C'était au même endroit, c'était à la Mutualité. C'était donc en juin 2020. On se retrouvait en sortie de confinement. Mais l'ambiance était complètement différente aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des problèmes habituels. Les problèmes habituels sont trouver du personnel, suivre la montée en cadence, traiter la décarbonation de l'aviation. Guillaume Faury, en patron d'Airbus, a tracé la voie et aujourd'hui, tous les grands donneurs d'ordre, tous les motoristes, tous les avionneurs sont dans le sillage sur un avion décarboné. Donc, on est dans une logique de construction, dans une logique de développement, ce qui n'était pas du tout le cas au Paris Air Forum de 2020, dont je vous parlais, où finalement, on se retrouvait, on était content de se retrouver, on ne s'était pas vu physiquement depuis un moment.
Oui, donc c'est pas business as usual, parce qu'il y a des gros enjeux, mais en tous les cas, il y a des perspectives. Cela dit, question quand même, c'est comment faire un avion sans la Russie? Oui, sans le problème de pénurie d'approvisionnement, sans les matériaux nécessaires, comment vous faites? Comment fait-on?
On a fait des avions sans la Russie.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est au-delà de sans la Russie.
Je vais répondre déjà à la question Edwige Chevrillon. On a fait des avions sans la Russie jusqu'en 91. On s'est habitué à faire des avions avec la Russie depuis 91. On s'est habitué à faire des avions sur une planète mondialisée depuis 91. il faut qu'on réapprenne à faire des avions dans un monde un tout petit peu moins global. Il y a des alternatives, il faut juste travailler, c'est du temps, c'est de l'argent.
Ben oui, mais sans titane, sans cobalt, comment vous voyez ?
Il n'y a pas que la Russie qui fournit du titane, il y a d'autres.
Non, mais je souhaite le titane parce que c'est plus évident pour l'industrie aéronautique.
Je ne suis pas en train de minimiser la difficulté. Je suis juste en train de dire qu'il y a des solutions, il faut les prendre à bras le corps. Et il faut les prendre à bras le corps. Ce qui est très très fort dans cette aéronautique, c'est l'esprit de filière. C'est-à-dire que vous avez les donneurs d'ordre, vous avez le premier niveau de sous-traitant, le deuxième niveau de sous-traitant, c'est tout le monde en pack, tout le monde en meute, et on essaye de trouver des solutions collectives. C'est ça qui fait toute la force, finalement, de notre industrie.
Est-ce que, justement, parce que vous, on va rappeler, Marwan Laoud, vous êtes à la tête de ce fonds Tikehau As Capital, où il y a un peu tous les grands du secteur qui sont présents pour investir, c'était créé au moment de la crise de la Covid, pour soutenir des entreprises du secteur de l'aéronautique, éviter que certaines technologies partent à l'étranger. On va y revenir, bien sûr, mais... Est-ce que ça va être quand même un même désastre que ça va être sur les sous-traitants automobiles ? Parce que là, on sait que la filière automobile, ils vont déguster un maximum, tout le monde ferme les yeux, mais enfin, ça va être vraiment une boucherie. Donc,
Il y a des similitudes et puis il y a des différences. Oui. Les similitudes, c'est la crise, on est tous confrontés à la même. Depuis, il y a l'inflation, donc tout est plus cher, l'énergie, les matières, les personnels, tout augmente. Les taux d'intérêt, l'argent est moins facile. Donc c'est en commun. Dans les autres similitudes, il y a la transformation, on décarbone l'aviation, on passe à l'électrique du côté automobile. Donc grand changement. Après, il y a des différences de structure, des différences d'organisation. L'aérien, nous avons la chance d'avoir un duopole, toujours un duopole, même si les Chinois pointent leur bout du nez, ils ne sont pas encore donneurs d'ordre. Les motoristes, ils sont quatre. Donc, ce qui fait que cette pyramide, cette structure facilite, si vous voulez, le suivi et facilite la consolidation de la supply chain. L'automobile est beaucoup plus éclatée, des donneurs d'ordre, il y en a partout.
Il y a beaucoup plus de constructeurs, ne serait-ce qu'en Europe, évidemment. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est plus facile, c'est ça. Enfin, plus facile, c'est...
Sans doute parce que je connais mieux, mais pour moi, c'est une situation différente de ce point de vue-là.
Alors justement, comment se porte le secteur de l'aérien, puisque c'est vous qui avez été en charge justement de le maintenir, enfin, avec évidemment tout le monde derrière, le pack de rugby, on est à Toulouse, si j'ose dire, derrière vous. Comment ça se passe? Est-ce que le mouvement de consolidation, il est terminé? On a l'impression qu'il est un peu à l'arrêt, là.
Il y a eu une première phase qui était une phase d'anesthésie générale, qui était normale et qui était d'ailleurs due aux efforts que tous les gouvernements, le gouvernement français en particulier en France, mais finalement dans tous les pays d'Europe, on a vu des mouvements similaires, tout ce qui concernait le chômage partiel, les prêts garantis. Ce qui a permis, je dirais, à toute l'économie, pas seulement à l'aéronautique, de se mettre en hibernation. Ensuite, nous sommes passés à une étape où l'activité a commencé à reprendre. Et vous vous souvenez sans doute, on a eu l'occasion d'en parler, pendant un moment on disait, mais vous ne faites rien, le fonds...
C'est une question que je vous avais posée.
Et ma réponse était, attendez, ça va venir.
Et alors ?
Depuis, écoutez, nous avons fait énormément de transactions. Je ne veux pas citer tout le monde, mais...
Combien, pour un montant de combien ?
Entre mars et avril dernier, on faisait une transaction par semaine. Ce qui donne une idée de la rapidité avec laquelle on exécutait. D'ici la fin de l'année, on aura investi pas loin de 550-600 millions d'euros sur les 750 que nous avons déjà collectés. Nous sommes toujours en levée. On va aller jusqu'au bout. C'était l'objectif du milliard, si vous vous souvenez, dont on avait parlé. Mais avoir en 2 ans investi autant, on va beaucoup plus vite, finalement, que la période d'investissement du fonds, qui était, je le rappelle, de 5 ans.
D'accord. Donc vous allez relever ensuite.
Donc on va revenir et dire, voilà, il faut compléter. Alors qu'est-ce qu'on fait comme transaction? On va aller sauver des niches, des entreprises importantes pour la filière. Je vais en citer deux, je pourrais en citer beaucoup plus. Rossi Aero, BT2I, des gens dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui sont importants. Pour la filière, et qui se sont trouvés en difficulté du fait de la crise. Ça, c'est une façon de faire. Évidemment, il y a des opérations beaucoup plus visibles. Fijac Aero, nous avons eu l'occasion d'en parler.
On va parler finalement. Aubert.
Mecachrome, ouais. We Are, ça, c'est de la consolidation. Mmh. Donc, on va faire sauver des niches, consolider des acteurs pour créer des acteurs plus gros, plus résilients, plus résistants, plus capables de prendre leur destin en main dans le futur de l'aviation. Tout ça est très important, d'autant plus qu'on décarbone. Donc on vit non seulement un renforcement, mais une transformation. C'est ça que nous essayons de faire.
Donc la consolidation, elle se poursuit. Vous n'avez pas complètement répondu à ma question, parce que là on est un peu dans un trou d'opération. C'est peut-être juste
pour... Non, la consolidation, elle se poursuit. Les opérations prennent du temps, bien sûr. Hein. Oui. Fijac Aero, on a commencé à discuter avec Jean-Claude Maillard en août 2020, et on est sur le point de terminer. Ça vous donne une idée du délai
et
nécessaire.
Et terminer quoi ?
Terminer la restructuration du bilan de Fijac Aero,
d'accord,
la remise en état.
D'accord, mais pour faire quoi ? Pour se rapprocher, parce qu'il y a un problème de succession aussi chez Fijac, par exemple. Donc on parle de consolidation. Est-ce qu'il y aura une consolidation de Fijac Aero ?
C'est un acteur. Fijac Aero est un acteur clé de la filière.
Ah oui.
Donc il fallait déjà commencer par lui assurer un bilan solide, traiter la question de la dette, lui permettre de se concentrer sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire produire des pièces aéronautiques à la qualité requise, dans le temps requis, au coût requis.
D'accord.
Évidemment, quand vous avez Fijac Aero dans votre portefeuille, vous avez une formidable plateforme de consolidation. Donc, d'autres choses vont suivre et ça va être très intéressant.
Et vous reviendrez nous voir. Juste une question sur les biocarburants, parce qu'on dit que c'est l'avion vert, parce que l'hydrogène, c'est pas tout de suite. Mais en même temps, c'est compliqué le biocarburant, parce que certains disent que ça détruit l'agro-business, d'autres disent c'est pas pour tout de suite. Et la filière, elle est pas tout structuré là pour le coup.
On est encore dans la phase expérimentale. On est en train d'expérimenter le fait de faire voler des avions avec des biocarburants. Je lisais l'autre jour que aujourd'hui tous les avions Airbus sont certifiés pour voler avec 50% de biocarburants, de sustainable aviation fuel, donc de carburant d'aviation durable, et qu'il faut aller jusqu'à 100%. C'est quand on parle de certification, c'est le côté réglementaire, la sécurité des vols qui est très importante. La deuxième phase d'expérimentation, ou la deuxième voie d'expérimentation, c'est de quel carburant on parle. Est-ce qu'on va produire avec des céréales ? Ça va renchérir le prix des céréales, ça va créer un problème dans l'agroalimentaire. Ils ont fait voler l'autre jour un 380 avec de l'huile de friture, enfin un kérosène produit à partir d'huile de friture. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être expérimentées.
Ouais. Avec des frites belges. Merci beaucoup. Merci Marwan Lawood. Donc vous allez revenir nous voir parce qu'il y a encore beaucoup de questions.
Beaucoup de choses.
Marwan Lawood, le président de Tikeo As Capital, était notre invité dans un instant. Le journal de Faiza Younsi.
BFM Business, le grand journal de l'écho, l'alerte Le Chypre.
Et non, ce n'est pas l'alerte Le Chypre, mais l'œil de Jean-Marc Daniel. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Alors, la question que vous nous posez ce soir, c'est est-ce que les frugaux sont en train de prendre le pouvoir au sein de la zone euro ? Pourquoi ?
Eh oui, je pense que l'adhésion annoncée de la Croatie à la zone euro, donc on a annoncé ça à la fin de la semaine dernière, est un symbole de la montée en puissance d'un certain nombre de pays intermédiaires entre les grands pays comme la France et l'Allemagne et les pays à économie un peu plus réduite comme par exemple Malte ou Chypre. Mmh. Et donc ces pays ont comme caractéristique d'être essentiellement des pays frugaux. La Croatie est un bon exemple. La Croatie, c'est le dernier membre de l'Union européenne et elle a fait un effort systématique de redressement de ses finances publiques, d'amélioration de la situation de son économie. Elle avait d'emblée, dès l'indépendance, dès l'explosion de la Yougoslavie, décidé d'arrimer sa devise, sa monnaie au Deutsche Mark. Elle a continué à avoir une sorte de parité fixe avec l'euro. Et elle défend un discours qui est un discours sur une forme de rigueur budgétaire associée au principe de libéralisme de l'économie européenne. La Croatie a été présidente de l'Union européenne au premier semestre de 2020. Et dans le désordre qui était lié à la pandémie, elle a maintenu sa volonté de signer l'accord de libre-échange de l'Union européenne avec le Vietnam pour indiquer que l'Union européenne, c'était la liberté de commerce, c'était un véritable projet qui était un projet dans lequel la rigueur économique et la rigueur budgétaire étaient à l'ordre du jour. Moyennant quoi, si vous prenez les frugaux d'origine, ils étaient quatre. Maintenant, ils sont 8. Alors, tous ne sont pas membres de la zone euro, puisqu'il y a un pays comme la République tchèque dont on peut penser qu'elle sera probablement le dernier à adhérer à la zone euro, ou le Danemark. Mais il y a pas mal de pays de la zone euro. Et là-dedans, la Croatie va probablement rejoindre ce groupe. Elle a déjà pris des positions de soutien à la Finlande sur un certain nombre de sujets. Et donc, je pense que la France et l'Allemagne vont devoir tenir compte de ces pays, d'autant plus que l'Allemagne a un problème politique. Hein, la coalition est un peu fragile. Et la France, quand même, a suscité beaucoup d'irritation en se faisant le porte-parole des non-frugaux. Des...
Oui, ça, on peut voir comment...
du Club Med.
Du Club Med des dépensiers.
Sachant que la Croatie est en bordure de la Méditerranée, donc c'est ça au bord de la Méditerranée, un frugal.
Oui, il y a risque de changement d'équilibre au sein de l'euro.
Oui, je pense. Oui, je pense.
Avec des conséquences. Merci beaucoup. L'œil de Jean-Marc Daniel, tous les mardis dans le Grand Journal de l'Écho, dans un instant. C'est Stéphane Cambon, président du directoire d'Euronext. On parle de son nouveau indicateur, Euronext Tech Leader. Et puis tiens, on dira un mot quand même sur le capitalisme familial. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
Et l'on part au pavillon Cambon dans Paris où nous retrouve, où on nous attend Stéphane Boujna qui est président du directoire d'Euronext. Bonsoir Stéphane Boujna, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Parce que c'est une journée importante, c'est votre grande conférence annuelle où vous avez fait une annonce forte avec la création donc de l'Euronext Tech Leader qu'on appelle un peu communément, je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas, en tout cas la comparaison peut être flatteuse, c'est un Nasdaq européen. Le lancer maintenant dans un contexte boursier un peu difficile, où on voit bien que la fête est un peu finie pour les techs à la bourse, est-ce que c'est le bon timing? Pardonnez-moi cette provocation.
Non, ça n'est pas une provocation. Les valorisations du secteur technologique ont évolué. Lorsque le projet a été initié en novembre de l'année dernière, les valorisations étaient à des niveaux très supérieurs. Aujourd'hui, elles sont à des niveaux plus faibles. Ça n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'il fallait offrir aux entreprises technologiques européennes une solution pour les inviter, lorsqu'elles veulent se coter en bourse, à se coter sur des marchés européens. Et la solution qui a été proposée, eh bien, c'est de mettre en avant les sociétés technologiques au seul niveau qui est pertinent, c'est-à-dire au niveau européen. Finalement, ce qui est important, c'est pas de savoir si une société technologique est cotée à Paris ou à Amsterdam ou à Oslo ou à Milan, c'est que ce sont des sociétés technologiques qui ont des caractéristiques communes, des profils de croissance communs et qui sont donc en capacité d'être identifiées par les investisseurs, par les analystes de recherche de manière homogène. Et c'est ça que nous avons voulu faire, c'est mettre en évidence un peu plus d'une centaine de sociétés technologiques européennes pour rendre le chemin vers l'investissement, vers ces sociétés technologiques, plus facile pour les gestionnaires d'actifs, plus facile par les gestionnaires en général de tous les investisseurs sur les marchés.
Oui, justement, c'est le gros enjeu, évidemment, c'est de convaincre les investisseurs, les analystes hein, aussi, parce que souvent on voit que sur les petites sociétés, il y a très peu d'analystes pour décortiquer le bilan, donner leur opinion, leur analyse sur des sociétés. Juste par exemple, une question, vous avez dit il y a 108 sociétés, il y en a la French Tech est très bien représentée avec une quarantaine dont 6 poids lourds du CAC 40, Capgemini, Refin Scientifique, Dassault Systèmes, etc. Ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire que les sociétés, elles sortent du CAC 40 pour être cotées sur le French Tech Leader. Non, mais expliquez-nous justement. Et si elles sont cotées à Amsterdam, comment ça se passe? Voilà.
Elles sont cotées, les sociétés dont nous parlons sont toutes cotées sur Euronext. Et Euronext, comme vous le savez, c'est un bassin de liquidité unique, un carnet d'ordre unique, une plateforme technologique unique. Il y a simplement des points d'entrée sur les marchés d'Euronext qui peuvent être à Paris, à Amsterdam, à Oslo, à Dublin, etc. Mais qui sont toujours des points d'entrée sur une plateforme de cotation unique. Donc les sociétés qui sont cotées à Paris sont évidemment toujours cotées à Paris. Simplement, ce que nous mettons en évidence, c'est un segment où nous rassemblons les sociétés, quel que soit leur endroit de cotation, qui c'est simplement du coup une modalité technique, dans un segment où elles sont identifiées comme des sociétés technologiques leaders en Europe, avec un indice qui sera opérationnel au milieu du mois de juillet, au milieu du mois prochain, et qui va permettre aux gestionnaires d'actifs de prendre des positions pour investir dans le secteur technologique en Europe en investissant sur l'indice Euronext Tech Leaders. Et ça permettra aussi, et vous avez très bien fait de le souligner à juste titre, aux bureaux de recherche, aux analyses de recherche en action, de suivre plus facilement, de manière homogène, ce secteur. Je cite souvent deux exemples assez représentatifs, je crois. C'est qu'il y a une magnifique société de paiement, de technologie de paiement en Europe qui est Worldline, qui est coté à Paris, et puis un concurrent qui est coté à Amsterdam qui s'appelle Adyen. En fait, ce qui est important, c'est que ce segment du secteur tech est représenté par ces deux grandes sociétés, indépendamment du lieu dans lequel techniquement les sociétés sont cotées. Et donc c'est ça que nous essayons de faire, c'est de rendre l'approche, la visibilité et ultimement la liquidité à travers l'indice du secteur technologique européen plus facile, avec un marché plus profond, avec un groupe de sociétés plus important qui représente 1000 milliards de capitalisation boursière.
Comment est-ce que sont sélectionnés comment vous avez sélectionné ces entreprises pour rentrer sur ce Euronext Tech Leaders?
Alors d'abord, nous l'avons fait avec des partenaires, parce que, comme vous l'avez vu, entre le moment où nous avons annoncé l'initiative en novembre et aujourd'hui, en juin, nous avons passé beaucoup de temps avec des banques d'investissement et de marchés françaises, internationales, avec des partenaires dans l'ensemble des géographies d'Euronext, pour définir ensemble ce que pourrait être un segment pertinent, représentatif des leaders de la technologie en Europe. Et donc, il y a des critères de capitalisation boursière minimale de 300 millions, il y a aussi des critères de croissance qui dépendent en fait du chiffre d'affaires initial des entreprises. Il y a des seuils de licorne au-delà d'un milliard qui font évoluer ces critères de croissance. Et donc, il y a un ensemble de critères que nous avons rendus publics aujourd'hui qui permettent de définir un groupe d'entreprises technologiques tout à fait homogène et qui a vocation à être l'horizon pour les entreprises qui vont se coter en bourse, qui envisagent d'entrer en bourse et qui trouveront auprès de ses pairs, PAIRS, auprès de ses comparables, des modèles qui vont rendre plus attractifs les marchés cotés pour ces entreprises. Il faut vraiment que les entreprises européennes, et il y en a beaucoup à travers l'Europe, qui sont ce qu'on appelle assez communément des licornes, qui, lorsqu'elles envisagent d'entrer en bourse, trouvent sur le continent européen, à travers ce nouveau segment Tech Leaders, à travers cet indice Tech Leaders qui va sortir dans quelques semaines, à travers tous les services de visibilité qu'on va mettre autour, le véhicule pour trouver en Europe la liquidité et la visibilité dont elles ont besoin.
Oui. En même temps, il faut les soutenir. On parlait l'autre jour avec le patron de Believe, donc la licorne qui est rentrée en bourse. C'était la plus grosse introduction en bourse d'une tech. Comment faire pour les soutenir, les inciter à venir se coter chez vous?
Alors, d'abord, l'initiative que nous annonçons aujourd'hui est européenne, mais en France, nos partenaires que sont BPI France, Caisse des dépôts et consignations, notamment CDC Croissance, et puis la French Tech, se sont mobilisés très fortement. Et en particulier, s'agissant de CDC Croissance et de BPI France, ils ont mis en place des modes de financement pour contribuer au financement des IPO des entreprises de technologie françaises qui vont rejoindre plus tard Tech Leaders, de l'ordre de 800 millions d'euros de fonds propres disponibles.
Donc
c'est vraiment une initiative conjointe de BPI France.
Pardon, excusez-moi. Ces 800 millions, comment est-ce que les entreprises vont les toucher, comment ça va s'organiser, vous voyez? Parce qu'on dit souvent, on balance des chiffres comme ça.
Non, c'est à l'occasion. Oui. Non, mais vous avez raison de poser la question, et elle mérite une précision. Votre question nécessite une précision. À l'occasion de l'introduction en bourse des nouveaux champions technologiques, au moment de la constitution du book, c'est-à-dire des actionnaires qui vont participer à l'introduction en bourse, alors des fonds dédiés d'investissement en technologie à cette phase-là très particulière du développement de l'entreprise technologique sont disponibles désormais chez CDC Croissance et chez BPI France pour faciliter, accompagner le montage de ces introductions en bourse et la participation à ces introductions en bourse. Ce sont des fonds pris IPO, comme il en existe partout dans les domaines, dans les territoires où il y a des gisements technologiques importants, notamment aux États-Unis. Et donc, CDC Croissance et BPI France vont appliquer les standards de ces fonds de ces fonds pré IPO. Mais au-delà de ça, ce que nous allons faire, c'est créer un effet d'entraînement sur toutes les gestions privées, parce que désormais, investir dans le secteur technologique en Europe sera plus facile, plus transparent, car vous aurez à votre disposition un univers de comparables homogènes et un indice pour investir de manière synthétique sur ce secteur.
D'accord. Une dernière question rapidement, parce que je voudrais dire un mot quand même sur le capitalisme familial qui finalement est en train de préempter le CAC 40. Vous allez nous expliquer ça, Stéphane Bougin, dans un instant. S'il y avait un critère de réussite pour ce tech leader, ça serait quoi, Stéphane Bougin? Et là, vous avez 108 sociétés, c'est ce que vous avez annoncé aujourd'hui. Donc, ça sera à partir du mi-juillet. Et à la fin de l'année, je vous repose la question, on en sera à combien?
Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est un indice qui va être européen, c'est un segment qui va être européen. Pour moi, le succès sera constitué quand le nombre d'investisseurs technologiques en Europe qui aujourd'hui est relativement circonscrit se développera rapidement, parce que des gestions traditionnelles auront un chemin plus facile vers l'investissement technologique grâce aux outils que nous proposons, la visibilité d'un segment homogène à travers l'Europe et un segment de taille européenne et un indice qui permettra de faire un investissement synthétique sur ce groupe d'entreprises.
D'accord,
et cela, la mobilisation des gestionnaires d'actifs, c'est l'enjeu des prochains mois.
Oui, ça c'est vraiment le point important, et vous avez raison. Capitalisme familial, est-ce que ça veut dire, c'est la théorie du ruissellement qui bloque, ou qui bénéficie plutôt aux grandes familles du CAC 40? Comment vous avez mené une enquête? C'est assez impressionnant quand même les chiffres, Stéphane Bougin.
Oui, il y a effectivement eu un renforcement de la part du CAC 40 qui est détenue par des entreprises familiales. Il faut expliquer, parce qu'il y a aussi un peu d'illusion d'optique dans ces chiffres, et ça a été très bien expliqué par Nicolas Rivard plus tôt dans la journée, c'est très largement dû à la revalorisation, à l'augmentation de la valeur des entreprises du secteur du luxe dans lesquelles les familles sont très représentées. Et je crois qu'il faut tenir compte de ce facteur qui est très important. Le succès très fort des entreprises du secteur du luxe a conduit à une représentation très forte des familles, plus l'arrivée d'une nouvelle famille à l'occasion de la fusion Essilor Luxottica avec une famille italienne qui rejoint le capitalisme familial.
C'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour CAC 40?
Non, tout ce qui permet d'avoir des actionnaires stables et des actionnaires actifs est une bonne chose. Une bonne place de marché est une place dans laquelle il y a des investisseurs particuliers très présents, et il faut se féliciter aussi que les investisseurs particuliers continuent à représenter un nombre important. Après la sortie de cette étude, enfin sur un horizon temps du début de l'année 2022, l'AMF a récemment communiqué un accroissement de la participation des investisseurs particuliers. Il faut de la gestion indicielle, bien sûr, mais cette gestion passive ne manque pas. Il faut une gestion directionnelle, avec des fonds qui sont engagés dans la durée. Et il faut effectivement des investisseurs longs par nature, que sont les investisseurs familiaux. Donc je crois que c'est ni une mauvaise nouvelle ni une bonne nouvelle, c'est le reflet de la valorisation très réussie du secteur du luxe en France et en Europe.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Bougna, président du directoire d'Euronext. J'en profite pour dire que le podcast, comme tous les interviews évidemment du Grand Journal de l'Écho, vous pouvez les retrouver sur le site de BFM Business. Merci. On vous rend à vos invités, Stéphane Bougna, dans un instant. C'est Antoine Frérot, le patron de Veolia et président de l'Institut de l'Entreprise, qui sera avec nous.
BFM Business, le Grand Journal de l'Écho, Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Antoine Frérot, PDG de Veolia, président de l'Institut de l'Entreprise. Bonsoir Antoine Frérot.
Bonsoir Madame Chevrillon.
Merci d'être avec nous parce que justement vous avez remis un rapport, enfin mené toute une enquête avec l'Institut d'entreprise bien sûr, avec la FNEJ et puis PwC sur vous avez essayé de dessiner, vous n'êtes pas le Saint-Exupéry de la RSE Antoine Frérot, mais en tous les cas vous avez essayé de dresser le portrait robot de l'entreprise full RSE comme vous dites, une entreprise qui serait totalement qui aurait une vertu absolument incroyable. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous l'avez rencontré?
Je vous sens dubitative, Madame Chevrillon.
Non.
Mais on avait déjà abordé ensemble cette question. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'entreprise full RSE? Vous connaissez bien sûr l'entreprise à responsabilité sociale et environnementale. Mmh. L'entreprise RSE, dont bien sûr l'objectif numéro un, c'est d'abord la création de richesses économiques et financières. Mais en accordant un soin tout particulier et au-delà des réglementations, au traitement social des salariés et à la protection de l'environnement. Et cette notion d'entreprise RSE, elle a fait faire des progrès. Elle est souvent moquée et pourtant elle a fait faire beaucoup de progrès. Mais aujourd'hui, on attend plus des entreprises.
Oui.
Et l'entreprise full RSE, c'est une entreprise qui n'a pas qu'un seul objectif. Bien sûr, il a toujours cet objectif de création de richesses économiques et financières.
Oui.
Mais il a également des objectifs concernant la performance sociale et concernant la performance environnementale. Donc, des objectifs multiples. Parce que l'utilité de l'entreprise, elle est multiple. Elle est plurielle. L'entreprise, ça sert bien sûr à créer des richesses économiques, mais aussi à développer les carrières et l'émancipation des salariés, à produire de nouvelles ressources alternatives pour pas en consommer trop sur la planète et avoir d'autres objectifs que la création de richesses.
Mais Antoine,
donc l'entreprise full RSE, c'est une entreprise qui a plusieurs objectifs. Parce que l'utilité d'une entreprise, c'est ça qui la rend prospère. Et c'est pas l'inverse. C'est parce qu'une entreprise est utile qu'elle est prospère.
Oui. Et on sait que ça, c'est un des thèmes quand même, parce qu'on avait débattu sur cette question de full RSE, aussi sur l'économie circulaire. Donc, c'est des réflexions que vous conduisez depuis longtemps, Antoine Frérot, soit à la tête de Veolia, soit à la tête de l'Institut de l'entreprise. Je suis pas sceptique sur la vertu. Je dis juste par exemple. Je voudrais qu'on prenne deux exemples. La rémunération des dirigeants, on faisait le bilan des assemblées générales là. On a bien vu que la rémunération des dirigeants, elle est, il y en a eu trois qui ont été refusées dans le CNP, certaines ont été interpellées, comme celle du patron de Carrefour ou d'autres. On voit bien que c'est une question. Et puis il y a eu aussi l'augmentation qui existe des salaires qui a été signée dans votre fédération de la propreté, plus 1,5%. Puis certains disent, attendez, c'est formidable d'augmenter ces salariés. Je dis juste que de l'autre côté, vous avez des clients qui vous disent « Ah ben nous, on cherche le low cost ». Oui, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous répondez sur la rémunération des dirigeants? Deux, sur le côté un peu injonction paradoxale.
Eh bien, je réponds que la rémunération des dirigeants, elle doit être assise sur les performances de l'entreprise qu'ils dirigent. Et cette performance, c'est sûr que si on la mesure selon une seule dimension, les résultats financiers, eh bien, elle est contestée de plus en plus. En revanche, le jour où on la mesurera sur plusieurs dimensions, une dimension économique et financière, une dimension sociale, des performances environnementales, que l'ensemble de ces objectifs seront définis par chaque entreprise, affichés à l'avance, mesurés, et que les entreprises en rendront compte, et qu'on pourra, et vous-même, lorsque vous interrogez les entreprises lors de la publication des résultats, aujourd'hui vous les interrogez sur leurs résultats financiers,
mais pas que.
Et demain vous les interrogerez sur les résultats également sociaux et environnementaux. Si la performance de l'entreprise est mesurée ainsi, et si les rémunérations des patrons sont assis sur ces performances avec toutes leurs dimensions, je pense que là, on pourra juger de la pertinence ou non de ces rémunérations avec un spectre bien plus large.
Ouais. Et par exemple, chez vous, chez Veolia, parce que j'aime bien être concrète, ça explique bien, je ne sais pas, votre rémunération, elle dépend de quoi par rapport à cette RSE? Qu'est-ce que vous avez comme critère?
Eh bien, nous avons 5 jeux de critères. Des critères économiques et financiers tout d'abord, qui pèsent pour l'instant pour 50% de la rémunération variable du directeur général, mais aussi des cadres dirigeants. Et puis, des critères sociaux, de performance sociale, la sécurité au travail, les heures de formation moyenne de chaque salarié dans le monde, le taux d'engagement des salariés, le taux de diversité et de mixité de l'entreprise, ou bien des critères environnementaux, les émissions de carbone, notre programme et le suivi de notre programme pour éradiquer le charbon, le recyclage, les tonnes de plastique recyclé, les tonnes de déchets toxiques éliminés, et puis des performances sociétales également. Ouais. Bref, un ensemble
un qui représente,
en plus de la performance économique, l'autre moitié de la rémunération.
Oui, et c'est ça qui est intéressant dans ce rapport que vous présentez à l'Institut de l'entreprise, c'est que ça touche en fait toutes les fonctions, ça change le management, parce qu'en fait, on ne peut plus avoir la fonction marketing d'un côté, la fonction financière de l'autre. Il faut que les frontières deviennent beaucoup plus floues ou beaucoup plus mouvantes, non ?
Les fonctions de l'entreprise sont effectivement moins en silo, elles sont plus interconnectées. Parce que pour une performance sociale, par exemple, ou bien pour une performance environnementale, la direction informatique a son rôle à jouer sur la diminution de l'empreinte carbone. Ou bien les achats ont un rôle à jouer en fonction de à qui et ce qu'ils achètent. Et c'est pareil pour les performances sociales, ou bien sociétales. Donc effectivement, de plus en plus, toutes les fonctions d'entreprise vont être amenées à définir et contribuer quelle est leur contribution à cette performance globale de l'entreprise. Et je peux vous dire que s'il y a une des parties prenantes de l'entreprise qui souhaite cette évolution, ce sont vraiment les salariés, l'ensemble des salariés, quelle que soit leur fonction, parce que cette vision de l'entreprise, elle apporte un complément de sens, bien évidemment, à leur travail et sentiment de fierté que l'entreprise dans laquelle ils travaillent, eh bien, elle contribue largement à faire, à amener du mieux-être et des progrès pour l'ensemble de la société.
Antoine Frérot, vous avez travaillé, il y a eu des ateliers, vous avez travaillé avec des chefs d'entreprise, mais vous avez travaillé sur trois scénarios un peu différents. Vous pouvez nous les expliquer? Et surtout, est-ce que ça modifie cette entreprise full RSE?
Oui, alors, trois scénarios qui servaient un petit peu de prétexte pour faire réfléchir les responsables d'entreprise, parce que à l'Institut d'entreprise, vous savez, notre motto, c'est l'entreprise pensée par ceux qui la font, par ceux qui la vivent. Donc, des salariés d'entreprise. Les trois scénarios, c'était un scénario où la technologie allait permettre de régler les problèmes environnementaux. C'était un scénario où il fallait sans aide suffisante de la technologie, faire des arbitrages entre les différentes dimensions d'entreprise, et puis un scénario qui devait conduire à la décroissance, parce qu'on ne savait pas faire autrement pour rendre l'entreprise responsable. Bon. Mais ce sont encore que des prétextes, bien évidemment. Hein. Et donc ce sont 240 responsables d'entreprise, issus de 100 entreprises différentes, mais aussi tout un ensemble de partenaires du monde académique qui ont participé à ces réflexions, un peu de brainstorming, si vous voulez, pour essayer de arriver à un certain nombre de conclusions. Et j'insiste sur le monde académique, parce que vous le savez, les écoles de management dans le monde entier, il y a 40 ans, en quelques années, ont été uniformisées et ont diffusé une même vision d'entreprise, l'entreprise financière, l'entreprise à vocation actionnariale. Ça, ouais. Et c'est ces enseignements-là qui ont généralisé dans le monde entier,
et pas seulement
en Occident, hein, ouais, dans le monde entier, le fonctionnement des entreprises. Ouais. Ben, il faut changer ça, ouais, justement. Ouais. Et c'est pour ça que le monde académique est si important pour accompagner ce développement. D'abord pour
mener des travaux de recherche. Après vous, Antoine Frérot, je reçois Christian Gaudier, que vous connaissez forcément, qui est le directeur général de la Toulouse School of Economics. Oui. C'est un peu la référence en termes d'académie, on peut dire ça comme ça, Antoine Frérot. Je vous suis complètement... Une question quand même. C'est qu'on voit bien tous ces critères, ils sont très importants. On voit bien l'impact aussi, l'importance d'avoir des critères de variabilité dans la fonction, dans la rémunération des dirigeants. Vous l'avez bien souligné en prenant votre cas. On voit bien comment ça fait bouger les lignes. Mais il n'y a aucune harmonisation sur les critères RSE. Comment faire pour que ça soit les mêmes? Moi, je peux vous dire, je reçois de nombreux chefs d'entreprise, patrons du CAC 40 ou des plus petits. Ben, c'est jamais les mêmes critères. Comment faire pour que ce ne soit pas du greenwashing?
C'est Alors, c'est un sujet majeur, et d'ailleurs, tous les participants de l'entreprise ont montré un consensus dans cette voie-là. Il faut trouver une forme de convergence de ces critères ou de cadre de ces critères, parce que sinon, chaque organisme y va de l'invention de ces critères, en change régulièrement, et ne permet pas aux observateurs et à ceux qui sont chargés d'évaluer, d'ailleurs, la performance des entreprises, de pouvoir comparer les performances entre elles. Bon, néanmoins, les entreprises sont bien évidemment assez différentes les unes des autres. Et si avec un seul critère, le nombre d'euros, on peut mesurer une performance économique ou financière, les entreprises, en fonction de leur degré d'intensité de travail, ou bien de l'impact qu'ils ont sur la planète en matière de pollution ou de consommation des ressources, d'accord, devront choisir des critères, oui, qui sont particulièrement adaptés à leur spécificité. Mmh. Néanmoins, par exemple, je pense que plutôt que de laisser ou le monde financier, ou bien des agences de notation, ou même chaque entreprise toute seule, choisir ses critères, je pense qu'il relève, ouais, du domaine du politique. Le système de politique économique de notre pays et des pays qui nous entourent, il est décidé par le monde politique. L'économie de marché, dont viennent les entreprises, travaillent dans un cadre qui est fixé par le monde politique. Et je pense que par rapport au capitalisme américain d'un côté, le capitalisme plus financier, ou le capitalisme d'État chinois, nous avons en Europe une forme d'homogénéité de pensée qui permettrait de définir un capitalisme rénové. Je pense que ça pourrait être au Parlement, oui, européen, par exemple, oui, et à la Commission, oui, de chercher à harmoniser, non pas d'uniformiser, car ça sera sans doute difficile. Encore une fois, les entreprises ont trop de spécificités différentes. Mais d'harmoniser le cadre de ces critères de performance non financière, non économique.
Oui, intéressant.
Et je pense que c'est à ce, oui, niveau-là, au niveau politique et au niveau européen, qu'il faudrait que nous puissions progresser.
Et qu'il faut travailler. Juste dernière question. Je reviens sur la question de la gouvernance. Parce que vous-même, dans ce rapport, vous revenez aussi sur le rôle du conseil d'administration, des administrateurs, en disant il ne faut pas qu'ils restent dans leur tour de verre face avec un seul interlocuteur qui est le dirigeant d'entreprise. Il faut qu'ils puissent justement avoir peut-être irrigué plus cette pensée RSE au sein de l'entreprise, donc descendre un peu dans la pyramide managériale.
Comme je vous l'ai dit, l'entreprise, elle a des objectifs pluriels, ouais, multiples. Cette pluralité d'objectifs liée à la pluralité des gens qui s'engagent avec l'entreprise et donc qui viennent y chercher quelque chose. Les salariés d'un côté, les clients de l'autre, les actionnaires d'un troisième, les fournisseurs, les territoires, bref, la société dans son ensemble. Eh bien, cette pluralité d'utilité de l'entreprise et donc d'objectifs qu'elle doit poursuivre, elle doit être reflétée par l'organe majeur, me semble-t-il, sa gestion, à savoir le conseil d'administration. Car je pense qu'il est important pour qu'une entreprise puisse correctement évaluer, puis également arbitrer entre ces différents objectifs, parce qu'à chaque moment, il devrait y avoir des arbitrages pour optimiser au mieux l'ensemble des objectifs, eh bien, il faudra que le conseil d'administration puisse refléter mieux cette pluralité d'acteurs qui s'engagent avec l'entreprise, qui viennent y chercher quelque chose et que l'entreprise doit servir comme elle a servi également les actionnaires depuis un certain nombre de dizaines d'années.
Oui.
Et donc oui, je pense que le conseil d'administration est un enjeu important.
Merci beaucoup Antoine Frérot, on a quand même mieux capté comment les conditions de succès pour cette entreprise Full RSE, parce qu'on y est, hein, on voit bien avec notamment toutes ces transitions écologiques, le paquet climat qui est en train d'être voté au Parlement européen, on verra s'il est complètement adopté ou pas, on voit que c'est très important. Merci beaucoup Antoine Frérot. Le patron de Veolia était donc notre invité, aussi le président de l'Institut de l'entreprise. Et ben, vous souhaitiez qu'on parle du rôle des académiques, et bien ça tombe bien, le directeur général à Toulouse School of Economics, Christian Gaulier, est notre invité. Alors lui, au Collège de France, il est professeur au Collège de France, bien sûr. Il a prononcé sa leçon inaugurale sur entre la fin de mois et la fin du monde. Et il faut quand même choisir. C'est une question de responsabilité. À tout de suite.
BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrillon.
Le président de Veolia réclamait, Antoine Frérot réclamait des académiques en disant ce sont eux qui peuvent pousser les choses. Eh bien, ça tombe bien. Il est avec nous, Christian Gaulier, qui est directeur général de la Toulouse School of Economics, quand même la prestigieuse école d'économie. Bonsoir, Christian Gaulier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Pour ceux qui nous voient à la télévision, vous avez des magnifiques lunettes vertes, peut-être, pour nous mettre dans l'ambiance actuelle. Alors, vous êtes professeur au Collège de France. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions du climat, justement, du prix de la taxe carbone, enfin du carbone, quelle valeur faut-il lui donner. Et puis là, vous avez publié un petit livre chez Fayard, en fait, qui est votre leçon inaugurale que vous avez, on dit comment, conduite, menée, dite,
question,
au Collège de France. Et c'est, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que souvent on se dit, tiens, entre fin de mois et fin du monde, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut vraiment choisir entre les deux ou pas?
Ah, il faut faire des compromis. On peut pas, pour sauver la fin, pour échapper à la fin du monde, il va falloir faire des efforts et ces efforts toucheront inéluctablement le pouvoir d'achat, donc les problématiques de fin de mois.
Oui, mais la problème, vous parlez de responsabilité humaine. Du reste, vous faites une comparaison en disant, bah tiens, on a bien évité catastrophe atomique parce que personne n'a appuyé. Enfin, si une personne a appuyé, enfin. Sur un bouton. Et là, en fait, pour éviter la catastrophe écologique, il faut convaincre des milliards de terriens. Quand même pas mal plus compliqué. Hein.
De ne pas appuyer sur leur propre petit bouton qui agit sur les émissions de CO2 qui ont un impact sur le destin de l'humanité sur cette Terre.
Ben oui, mais c'est un peu tout l'enjeu en ce moment, non?
Oui, c'est ça. Et donc,
ça ne peut pas venir que d'en haut.
Ben certainement pas. Je veux dire, ce sont les consommateurs qui sont responsables, in fine, des émissions de CO2, des produits qu'ils achètent et qu'ils consomment.
Il y a quand même un point, c'est que, en fait, pour détruire cette planète, on a mis quand même de nombreux siècles pour arriver aujourd'hui.
Tout à fait.
On est d'accord. Et là, on nous demande, c'est échéance 2030, 2026, 2035, 2050. Enfin, c'est tout proche.
Oui, sauf qu'on le sait depuis 1992, au moins, qu'on a un problème avec le climat. Et ça fait 30 ans qu'au lieu de réduire nos émissions de CO2, nous les augmentons. Et donc, franchement, il est temps d'agir. Il est plus que temps d'agir. Et effectivement, il faut demander quelques petits sacrifices aux générations actuelles pour éviter que les générations futures soient dans une situation exécrable.
Oui, en même temps, alors j'aime bien du reste parce que vous reprenez aussi dans votre texte, vous reprenez un peu toutes les expressions, mais après moi le déluge, pardon, c'est ce que disait Madame de Pompadour, pardon, décidément, problème de diction. Sur le long terme, nous sommes tous morts, donc finalement, à quoi ça sert de faire quelque chose? C'est des expressions qu'on utilise souvent. Là, on peut tenter de l'utiliser.
Non, mais je veux dire, nous sommes tous morts, oui, individuellement, mais nous espérons que l'humanité poursuivra sa trajectoire sur cette planète. Donc, effectivement, nous avons une responsabilité collective et individuelle de faire en sorte que des générations futures puissent s'établir et puissent prospérer comme nous avons pu le faire. Et il s'agit, en quelques années, une ou deux décennies, d'éliminer de notre mix énergétique des énergies fossiles qui ont fait notre prospérité depuis deux siècles. Et donc faire cela, c'est déplacer notre énergie vers des ressources renouvelables qui sont aujourd'hui, vous l'avez dit dans une partie précédente de votre émission, qui sont beaucoup plus chères. Pour décarboner la production d'acier, ça augmente les coûts de production d'un tiers. Pour décarboner des transports aériens avec des biofuels, il faut multiplier par un facteur 3, 4, 10 le coût de ces énergies pour se transporter par l'aérien. Donc il faut affronter ça. Est-ce qu'on peut compter sur les progrès technologiques et les innovations pour permettre d'avoir cette décarbonation dans les décennies à venir à un plus faible coût que celui que nous devrions affronter aujourd'hui pour décarboner? C'est une question qui est compliquée et qui nous oblige à réfléchir dans une incertitude assez radicale.
À propos de réflexion, j'ai une question un petit peu brutale, pardonnez-moi Christian Gaulier, mais quel est l'apport d'un grand économiste comme vous dans cette transition écologique finalement? Où est-ce que vous intervenez? Vous voyez, qu'est-ce que vous apportez?
Ah ben si vous voulez, aujourd'hui,
Qu'est-ce que vous calculez, anticipez
Les questions aujourd'hui sont plus tellement des sciences du climat et des sciences dures. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir comment organiser la société pour faire en sorte que la myriade d'acteurs économiques, les consommateurs, les producteurs, les pays étrangers s'y mettent pour réduire leurs émissions de CO2. Donc c'est un problème d'allocation des ressources, et je suis désolé, les problèmes d'allocation des ressources, c'est un problème d'économie. Donc nous, économistes, on a une vraie obligation, grâce à notre science économique, d'apporter des réponses sur comment modifier les règles du jeu, celles d'économies de marché qui ont fait tant pour notre prospérité aujourd'hui, depuis deux siècles, comment modifier ces règles pour effectivement faire en sorte que notre société soit capable d'affronter cette responsabilité collective envers les générations futures.
Alors, modifier les règles, c'est quoi d'abord ? Il y a la prix de... Parce que c'est le problème, c'est l'obstacle principal, c'est le prix du carbone, la valeur carbone.
Voilà, exactement.
Tout le monde s'est arraché les cheveux sur cette question.
Oui, effectivement, et donc mon colloque demain au Collège de France, qui rassemble les plus grandes sommités mondiales sur le sujet, donc je vous rappelle, c'est ouvert au public sans inscription, rendez-vous à 9h au Collège de France. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel les économistes ont travaillé depuis plus d'un siècle maintenant, et nos propositions, alors les économistes ne sont pas d'accord sur grand-chose, par contre ils sont d'accord sur une chose, c'est que pour résoudre le problème du climatique, il va falloir inciter tout le monde, mobiliser les consommateurs, les producteurs, en modifiant les règles du jeu, de manière à ce que chacun intègre dans ses décisions de se transporter, de se chauffer, de consommer des biens et services, et de les produire, intègre les conséquences sur le climat de ces actions. Et la solution qui est proposée, c'est de mettre en place une tarification du carbone qui permettrait non seulement de faire en sorte que chacun réduire ses émissions de CO2, parce que c'est une façon, quand on met un prix sur le carbone, chacun va devoir faire un arbitrage entre payer la taxe, s'il s'agit d'une taxe, ou le permis d'émission, s'il s'agit d'un marché de permis, comme Parlement européen est en train de discuter pour l'instant, ou bien faire l'effort, accepter de faire les quelques sacrifices financiers pour acheter la voiture électrique, pour changer sa chaudière au fioul, etc. etc.
Oui.
Et donc cet arbitrage, chacun va le faire de façon efficace, en intégrant l'intérêt général à travers cette tarification du carbone. Si le prix d'émission, excuse-moi, si le prix du carbone est égal aux dommages engendrés par ce carbone, voyez bien que chacun va faire en sorte qu'il va agir comme s'il était la victime de sa propre pollution, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas.
Oui, mais alors justement, est-ce qu'il faut fixer le prix du carbone d'une manière élevée ou pas ?
Alors, il y a un sujet, qui est celui d'acceptabilité sociale.
C'est ça.
Et ce sujet d'acceptabilité sociale, c'est pas uniquement le problème de la taxe carbone, c'est beaucoup plus généralement toute stratégie de décarbonation a un coût, et ce coût, in fine, va être...
citoyens, on va accepter de payer, mais tout beaucoup plus cher, et soudainement.
Alors, pas soudainement, il s'agit d'augmenter graduellement le prix du carbone. Le point important que je voulais mettre en évidence ici, c'est que contrairement à toutes les autres politiques climatiques qui sont sur la table, qui inéluctablement atteignent le pouvoir d'achat des ménages, la solution de la taxe carbone peut être un moyen à la fois de lutter contre le changement climatique et lutter contre les inégalités en utilisant le revenu fiscal engendré par cette taxe pour compenser, voire surcompenser les ménages les plus modestes. Je vous illustre ça. Un Français émet en moyenne chaque année 6 tonnes de CO2. Si vous mettez un prix du carbone à 100 € la tonne de CO2, qui est à peu près le prix actuellement qui prévaut sur le marché de permis d'émission européen, eh bien ça fait 600 € de revenu fiscal. Si ces 600 € de revenu fiscal sont entièrement redistribués aux ménages, et en particulier les ménages les plus modestes, ceux qui sont les plus modestes vont pouvoir non seulement faire des efforts de réduction des émissions de CO2, mais en plus être surcompensés pour ces efforts. Et donc plus vous augmentez le prix du carbone, plus vous réduirez les inégalités, parce que vous pourrez augmenter le chèque vert que l'État pourra payer et financer avec cette taxe carbone.
Ouais, donc, et le prix du carbone tel qu'il est aujourd'hui vous paraît, je veux dire, au bon niveau ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et c'est le sujet du colloque de demain.
Oui.
Moi, je pense personnellement qu'il faudrait aujourd'hui une taxe carbone, un prix du carbone, en tout cas, autour de 160 € la tonne de CO2. Il est aujourd'hui en France, pour les marchés de permis, à 80 €. Et pour la taxe carbone que vous payez en achetant de l'essence à la pompe ou en achetant du fioul domestique, il est à 44 € la tonne de CO2. Donc, je propose, par rapport à ces 44, essentiellement une multiplication par 4, ce qui permettrait de donner une incitation beaucoup plus forte aux ménages et aux entreprises pour réduire leurs émissions de CO2 et pour surcompenser les ménages les plus modestes en augmentant massivement le chèque vert qui pourrait être...
Mais est-ce que pour les entreprises, c'est pas justement, à ce moment-là, si vous multipliez par 4 le prix d'une taxe carbone, ça...
C'est bien sûr, c'est un problème.
C'est un choc,
Mais la réalité, ceci n'est que le reflet de l'ambition climatique. Ayez bien en tête que réduire de 55% les émissions de CO2 d'ici 2030, qui est l'ambition européenne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais... Et on doit le faire en 8 ans, alors que nous avons réduit que de 20% les émissions de CO2 en 30 ans. Donc on doit réduire de 35% supplémentaires nos émissions en 8 ans, alors qu'on a réduit que 20% en 30 ans.
D'accord, mais vous voyez bien, vous regardez la presse, vous regardez BFM, il y a une question de pouvoir d'achat en ce moment sur les Français.
Bien sûr, bien sûr.
Notamment avec l'augmentation du prix de l'énergie. Donc là, tout ça, je veux dire, ça a forcément un impact encore pire pour les Français, et notamment les Français les plus en difficulté.
Oui,
comment vous gérez ça?
160 euros la tonne de CO2.
C'est un truc de riche, Christian Gaulier. Je vous provoque un peu.
Non, justement. La taxe carbone est la solution qui permet à la fois de réduire les inégalités et réduire et affronter notre responsabilité envers les générations futures. Les gens riches qui ont les SUV et les grosses maisons passoires thermiques, ou pas passoires thermiques, mais en tout cas très grosses, et qui consomment beaucoup d'énergie fossile, ceux-là, soit ils réduiront leurs émissions de CO2, soit ils paieront une taxe massive qui sera transférée vers les ménages les plus modestes. Ouais. Donc on affronte à la fois la problème d'acceptabilité sociale.
Celui qui a une vieille voiture diesel parce qu'il travaille, il vit à la campagne et qu'il doit se rendre à son usine qui est à plusieurs kilomètres.
Alors ces gens-là, sur le long terme, devront s'adapter, mais à court terme, le chèque vert pourra leur permettre d'augmenter leur pouvoir d'achat tout en leur donnant les bonnes incitations pour réduire les émissions de CO2. Ouais. Donc en fait, on a la solution qui est proposée, elle permet à la fois de résoudre le problème des gilets jaunes, parce que constatons effectivement que les ménages les plus modestes ont une réelle difficulté à s'adapter, à court terme en particulier, face aux grands enjeux du changement climatique. Alors que, oui.
Juste une question, pardon, il nous reste une minute, c'est pour ça que je me permets de vous interrompre. Puis le professeur, voilà, je suis une petite élève, mais demain vous avez votre grand colloque, d'accord ? Est-ce que tout le monde est-ce qu'il y a une position commune, notamment de tous les académiques, vous avez des gens qui viennent absolument du monde entier, est-ce qu'il y a quand même un accord ?
Sur la recommandation de mettre en place une fiscalité verte, avec compensation des ménages les plus modestes, il y a un consensus à 95% dans la profession des économistes académiques. Sur la problématique du niveau de cette taxe, c'est une problématique complexe parce que on est là dans un compromis entre fin du monde et fin du mois, comme vous le rappeliez dans mon titre. Et ça, il y a une difficulté pour dire quel est le degré de long-termisme, quel est le degré d'intégration du très long terme dans nos décisions de faire des sacrifices à court terme. Et là, il y a un débat parmi les économistes.
Ah, d'accord, ok. Ouais. Non, mais donc, comme les questions n'étaient pas complètement absurdes.
Non, absolument pas.
Merci beaucoup. Non, mais vous avez raison, c'est une question de timing aussi.
Non, c'est une question technique compliquée parce qu'on est là face à une incertitude radicale sur le destin de l'humanité qu'il faut modéliser, qui est complexe.
Merci beaucoup, Christian Gaulier, qui est quand même directeur de la Toulouse School of Economics, la meilleure école d'économie de Paris. Merci beaucoup. Et donc, demain, colloque
de Toulouse.
D'économie de Paris. Mais de Toulouse, décidément. C'est vous qui me savez à cause de vous. Parce que votre colloque, il est demain à Paris, au Collège de France. Voilà, c'est pour ça. Et donc, vous publiez entre fin de mois et fin du monde, économie de nos responsabilités envers l'humanité chez Fayard. Merci, Christian Gaulier. Voilà, c'est la fin du grand journal de l'Écho. Vous le savez, vous pouvez réécouter, restez avec nous, Christian Gaulier, vous pouvez réécouter le Grand Journal 22h minuit. Tout de suite, Tech & Co, François Sorel.
Le Grand Journal de l'Écho sur BFM Business.